Il y a plus de 10 ans, en fait, mon père avait acheté le terrain juste en façade du fort et une prairie, en fait. Donc, non, on va pas essayer cette fois-ci. Enfin, il y a une grande allée et au bout, il y a le fort. Et en fait, mon père avait la prairie ici devant. Et chaque fois que des arbres tombaient, ce qui s'en suit, ça tombait toujours dans sa prairie et ça cassait sa clôture. Et donc, à un moment donné, il dit, bon, ben, il faut que j'aille trouver la propriétaire pour voir ce qu'il en est, enfin pourquoi, enfin il faut trouver une solution, il faut que ces arbres ne tombent plus sur sa clôture. Et donc il a pris contact avec cette dame-là, mais il y a bien 10 ans, si pas 15. Et en allant voir cette dame-là, il a compris et découvert qu'il y avait un grand bois, un magnifique grand bois, et un fort en dessous du bois. Ça veut dire qu'on ne voyait plus du tout le fort, il était carrément. C'était une
Ensevelie.
forêt, c'était une forêt. Et alors, dès que mon père a su ça, évidemment, lui. Il s'est dit, un grand bois, il est toujours persuadé que la guerre va arriver, il a toujours peur qu'on tombe à court de carburant, de chauffage et de mazout. Donc il s'est dit, moi, un grand bois, je le veux, quoi. Donc, et en plus de ça, le fait qu'il y ait un fort en dessous, bah, c'est toujours un peu amusant, quoi. Et donc, il s'est arrangé avec la dame, en fait. La dame ne voulait pas le vendre tant qu'elle n'était pas morte. Donc, elle a convenu dans son testament que quand elle serait décédée, ce terrain serait vendu en priorité à mon père. Par contre, ce qui n'était pas conscient, donc en fait, la dame décède, donc à mon avis, on a acheté le fort fin avril 2013, donc elle a dû décéder, je sais pas moi, début 2013, quelque chose comme ça, le temps que la succession s'organise, hein, et on l'a contacté, donc voilà, mon père ben, attendait depuis une dizaine d'années pour avoir son fameux bois et fort. Et alors, quand il achète ce bois, il est toujours persuadé qu'il va en rester qu'avec du bois. Bien sûr, ça le titille de savoir quelque chose en dessous, mais à 80 ans, commencer à déterrer un fort, il n'y pensait pas du tout. Et c'est là que M. Bernard Sébille et Dirk Roelants et d'autres personnes du club Spéologie interviennent. C'est que quand mon père achète, mon père, lui, commence à déboiser, à couper, enfin, à vendre du bois, en fait, hein.
Oui, il exploite le terrain,
C'est
quoi.
voilà, c'est un commerçant, mon père, hein. Il vend et il achète. Hein.
Oui.
Et alors là, il est approché par Dirk Roelants, par M. Sébille. Enfin, la barrière est ouverte, les gens viennent, ils voient qu'il y a des véhicules, donc ça bouge, quoi. Donc les gens voient que ça bouge. Et donc c'est comme ça qu'on rencontre M. Sébille et M. Roelants et d'autres personnes du club. Hein. Moi, je n'étais pas là à cette époque-là. Et donc, ces gens-là lui disent, oui, mais regardez, c'est là le trou, c'est le fameux trou en question, c'est par là qu'on rentre, nous, et c'est chouette, et c'est bien. Et puis tout de suite après, ben, mon père, il se dit, oh, c'est con d'avoir ça en dessous de ses pieds et pas aller le voir, quoi. Donc évidemment, ça commence à le turlupiner, il ne dort plus, il dit, oui, on va prendre une grue, on va creuser un peu, ben, un peu, où un peu? T'as 11 hectares de terrain, hein, donc voilà. Évidemment, il y a le trou des spéologues, on l'appelle comme ça finalement, le trou des spéologues. Et bien sûr, le fort est pas loin du trou, hein, donc c'est dans les alentours. Donc on a creusé un petit peu au début à l'aveuglette. Et puis après, grâce au plan de Dirk Roelants, on est arrivé à faire cette première entrée ici. Donc on appelle ça le débouché d'infanterie.
C'est-à-dire que tout ce qu'on voit ici, donc là il y a un énorme massif de béton, tout ça a été enterré.
Oui, il y avait de la terre vraiment, même ici, hein. Donc là, il y a
Oui,
des
j'ai
arbres.
vu les photos. Donc l'entrée principale,
Ouais.
effectivement, était
Et donc là,
complètement
il y a
enterrée.
les arbres, il y a plus ou moins 1 mètre de terre. Tout
Oui.
ça était couvert aussi de terre.
D'accord.
Tout était. C'était un bois. On ne voyait pas qu'il y avait un fort. D'ailleurs, les gens qui habitent aux alentours ne savent pas qu'il y a un
Oui,
fort,
bien
hein.
sûr.
Et donc, ce fort avait vraiment disparu de la vue, hein, finalement. Parce qu'en fait, tous des arbres comme ça ont poussé. Donc, il y a des bouleaux, Enfin, tout ce qui pousse spontanément, quelques petits chênes, des frênes, enfin, enfin,
D'accord, un
peupliers,
petit peu de
etc., des
tout.
bouleaux. Et donc grâce fameusement à ces fameux spéologues, donc Dirk Roelants a un peu guidé, et c'est comme ça qu'on a su découvrir cette première entrée-là. Et puis Dirk a encore continué à guider un peu avec d'autres personnes, et on a ouvert cette deuxième entrée-là. Et donc, grâce à ces deux entrées-là, on a accès à toute la partie du fort de 1914. On a commencé, on a été un peu encadré par. On a deux bénévoles en fait. On a une personne qui travaille encore et qui vient donc le week-end et un petit peu le soir quand il fait beau. Et on a une personne qui est pensionnée qui vient tous les jours, 2 heures, quelque chose comme ça. Tout le reste des travaux est fait par mon père sur ses fonds propres. Hein.
Mais il faut des grues.
Ah ben, on loue des grues. Ah, une fois qu'on commence à creuser et qu'on est pris par le. Enfin, ça, c'est un peu comme un trésor, hein. T'achètes un bois, tu sais qu'au milieu il y a une boîte au trésor. tu as envie de la voir. Une fois que tu creuses un peu, tu sais qu'il y a une entrée là, bah, tu sais qu'il y en a encore une là. Mm-hmm. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu creuses celle-là, quand tu as fini celle-là, tu attaques l'autre. Enfin, oui. Puis après, les grues, ben, on déblaye, on nettoie, etc. Puis on creuse un peu, oh, on tombe sur des fondations. Ah, on arrête de creuser là, on va voir ce qui se passe là. On a retrouvé toutes les fondations des baraquements, parce que, hein, en temps de guerre, etc., il y avait des baraquements, et, etc. Donc, on va un peu partout et nulle part. On essaie de se concentrer quand même pour essayer de déblayer un maximum du fort. Mais donc, tout ça en 2 ans, c'est des aventures. C'est tous les jours une aventure. Hein. Mmh. Tous les jours, on a une découverte. Encore ici, le 20 février, on avait une journée de travail pour préparer la fameuse fête du 19 et 20 mars, la reconstitution. Là, on avait exceptionnellement 20 bénévoles. On nettoie, on travaille. Un bénévole se retourne. Bah, il dit, c'est bizarre, on a plafonné, on a rebouché une porte. Je peux foncer, Françoise? Bah oui, hein. Il prend le marteau au pic, on casse, baf, on fait tomber une porte derrière 2 nouvelles salles. Mais... c'est comme ça, mm-hmm. pas tous les jours, c'est pas tous les jours Noël, mais non, c'est très régulièrement qu'on a des surprises, des bonnes, des mauvaises. Enfin voilà, un jour on creuse encore, c'est toujours avec les pelleteuses qu'on trouve quelque chose. Un jour on a trouvé un puits, on ne sait pas du tout à quoi sert ce puits, mais il y a un puits d'eau avec de l'eau bien claire, donc alléluia, on a de l'eau, quoi. Donc tous les jours il y a, voilà, il y a quelque chose, quoi. Voilà, tout à fait. Et ça peut être encore cette journée de travail-là, le 20 février, on a déblayé des salles, puisqu'on avait beaucoup de bénévoles. Les bénévoles prennent des pelles et charrient, c'est un travail de nègre, hein. C'est, ben, qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent un jerrycan américain, voilà, ben, c'est gay, c'est amusant. L'autre côté, ils ont trouvé toutes des bouteilles qu'on a laissées là-bas, mais ils ont trouvé des bouteilles, une bouteille de Coca-Cola de 1935, je crois. Oui. Avec le cachet ou l'étiquette, enfin, ils ont vu l'année, quoi, donc, voilà, ça veut dire que...
Ouais, faut bien les protéger,
c'est... les garder, hein. Oui, bien sûr, oui, voilà. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'est pas équipé, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité courante, ah oui. Et on n'a pas de locaux, tu vois. Donc, on travaille vraiment comme en 40, hein. C'est des conditions de travail pour c'est nous qui sommes jeunes et habitués à avoir l'ordinateur, l'imprimante, oui. La machine à café, le frigo américain, c'est très dur pour travailler et pour s'organiser, en fait. Hein.
Oui, je m'en doute. En plus, apparemment, sauf erreur de ma part, les travaux ne se limitent pas à ça. C'est-à-dire que quand on ressort une entrée comme l'entrée principale de terre, au départ, tout est maculé de boue, c'est dégradé. Vous avez restauré l'entrée aussi. Hein.
Ah oui, oui, bien sûr. Hein, parce que la photo, évidemment, n'est pas belle là, mais le fort Saint-Héribert n'était pas blanc comme ça quand on l'a déterré. Évidemment, il était sale et dégoûtant. Et même, il n'y était plus. Les bénévoles l'ont refait. Hein, Pascal, par exemple, c'est quelqu'un qui est courageux, qui est volontaire, qui est compétent, c'est... enfin, voilà, qu'on a vraiment des gens... je veux dire, ça vaut la peine d'avoir des gens pareils, parce que c'est des gens qui ne comptent pas leur... qui ne comptent pas leur... leurs heures. Et pour trouver ça, c'est pas rien, quoi. Si on n'avait pas eu Dirk et tous les spéléos, on n'aurait jamais trouvé, nous, parce que nous, on creusait... Parce qu'en plus, ça, nous, on connaît rien dans la fortification, rien du tout, hein. Donc, il y en a qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, nous pas du tout. Donc, c'est même moi un peu mon problème, c'est que moi, je n'y connais rien, quoi. Hein. Tu vois, la Potaine était comme ça quand on a creusé, hein. Donc, il n'y avait pas le fort Saint-Héribert, ce sont les bénévoles qui l'ont refait.
Oh, oui, donc en fait, tout était sous la terre.
Tout.
Et
tout.
Comment cette terre est arrivée? Parce que c'est quand même pas naturel, ça a été dissimulé.
Ah non, bien
dissimulé,
sûr, c'est un propriétaire qui a laissé faire venir les terres de Remblay et les déchets ménagers.
Il paraît qu'à l'intérieur du... je me souviens plus. À l'intérieur du fort, il y aurait une voiture.
Oui.
Vous êtes embêtée avec le démontage de ça?
Non, parce que... enfin, oui et non. Elle est toute... c'est une voiture qui a été...
scotchée, quoi.
Oui, elle est toute... En fait, donc, tu as une fenêtre. La voiture est rentrée comme ça dans la fenêtre. Et elle sort un petit peu... Donc, la fenêtre s'arrête là et elle sort un petit peu dans la salle du fort, quoi. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va disquer pour la couper à ras... pour ne pas que quelqu'un... enfin, ça fait 2 ans qu'on ouvre, la personne qui se cogne, hein, on a mis des banderoles et ce qui s'ensuit. Mais enfin, ici, comme on attend énormément de monde pour le 19 et 20 mars, la reconstitution, on va quand même disquer pour ne pas que quelqu'un... Mais tu vois, donc tout ça, ça c'est sale, hein, donc ça a été nettoyé, mais de nouveau, pas de karcher, hein, enfin pas de pression. Oui. Oui. Donc obligé de travailler avec des citernes d'eau de mon père, prendre une remorque, on va chercher, on a un petit bâtiment pas tellement loin de là, on va chercher de l'eau, on essaie de mettre le truc pour avoir un peu de pression, enfin... On travaille, c'est comme au temps des pharaons, hein, c'est, je te dis, on travaille, il faut y aller pour le croire, quoi, il faut venir voir une fois. Mais donc là, après, ils ont tout nettoyé la façade, et alors ils ont repeint le Fort Saint-Héribert, quoi. Ben, à l'intérieur, en fait, il n'y a pas... Attends, je vais te montrer... Quel... Ah, ça, c'est les baraquements, tu vois. Tu vois bien, oui, comme ça.
Oui, oui, très bien.
Ça, c'est la fondation des baraquements, tu vois. Donc, de nouveau, on était en train de nettoyer, puis... Qu'est-ce que c'est de ça? C'est pas de la terre, c'est du béton, tu vois. Alors, on a tout nettoyé convenablement. Et donc, ça veut dire qu'il y avait un grand bâtiment. Et là, on voudrait bien faire un musée.
D'accord.
En fait, je voudrais bien faire... Tant que papa est vivant. Il sait que je parle comme ça. Hein. On est habitués, nous, on parle très franchement. Ouais. Et donc, on voudrait bien faire une cafétéria, le musée... Et en même temps, un genre de petit studio au-dessus, tu vois, comme ça. Quand, oui, parce que moi, quand je vais, quand papa n'est plus là, moi, je dois aller beaucoup là-bas, tu vois. Moi, je me dis, si j'ai une chambre, une salle de bain, il ne faut rien. Hein. Tant que j'ai de quoi dormir et de quoi me laver, c'est bon. Moi, voilà, je n'ai pas besoin d'une maison. Hein. Et alors, donc, toi, je voudrais bien faire la cafétéria, le musée et au-dessus, comme un grand studio, je vais dire. Tu vois, un truc comme ça, ou en bas, n'importe. Comme ça, si papa est là, il peut encore dormir aussi. Pour qu'on puisse rester sur place pour éviter les trajets, parce que quand même, chaque fois trois quarts d'heure de route. Hein,
ça fait une petite route.
Ouais. Ben, ça me fait gaspiller de l'argent. Ça, oui. Hein, et on consomme et on pollue, etc. Donc c'est con. Donc si au-dessus de ça, on sait faire un petit studio, juste une chambre, une salle de bain, un WC, et encore les WC, je peux utiliser les WC de la cafétéria, je m'en fous, la cuisine aussi. C'est ça que je voudrais bien arriver dans les plans, à faire un truc que la cafétéria me serve à la rigueur de salon. Tu vois, faire ça intelligemment, que la cuisine, ben, quand il y a une fête, je travaille quand même, donc je ne sais pas être dans la cuisine. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Faire quelque chose de polyvalent, quoi. Et voilà, quoi. Et un petit bureau aussi, parce que bon, ma maison, regarde-moi ça, j'ai les drapeaux, j'ai dans le couloir, j'ai les un bordel ici. Donc j'aimerais bien aussi un local pour un petit bureau là-bas, quoi. Ben, tu vois, là, tout était nickel, maintenant, tout est nouveau envahi par la mauvaise herbe, évidemment. Tu vois, papa, il a toujours espoir, quand il voit des canalisations comme ça, qu'elles puissent encore fonctionner, quoi. Bon, à mon avis, il rêve un peu. Donc, avant, c'était fermé. Là, on creuse. Et en creusant, juste en face, tu as accès à l'aérofort de 40, que tu verras sur une photo après. Parce qu'en fait, il y a deux... Le fort a été réarmé. Donc, il y avait le fort de 14. Il y a la guerre. Le fort ne résiste pas. On réarme le fort. On creuse et on refait un fort en dessous du fort de 14.
Donc, ce qui explique qu'il y a deux niveaux.
Voilà.
D'accord.
Même trois. Il y a trois niveaux, en fait.
Ah oui.
Contrairement à nous, dans Brabant-Wallon, Namur et Liège, c'est la fortification, comme Anvers, comme d'autres régions, je ne sais plus lesquelles. Mais enfin, Namur et Liège, c'est terrible. Hein. Et à Liège, encore bien plus qu'à Namur, parce que nous, à Namur, il n'y a que nous. Hein, il n'y a que le fort de Saint-Héribert qui est ouvert. Il y a un petit peu le fort des Mines qui est ouvert, puisqu'il a été... la province de Namur a fait un accord, un partenariat avec le propriétaire, et pendant 4 ans, ils peuvent le gérer pendant la période de 14-18 pour faire des petites visites et ce qui s'ensuit. Donc, on est les deux seuls forts de la position fortifiée de Namur à être ouverts, hein, finalement. Tous les autres sont fermés pour des raisons diverses. Et donc, tous les forts, tous les gens de Liège, tous les gens de la fortification de Liège viennent chez nous, parce que comme ce fort était fermé, il était enseveli, donc seuls ont été le voir que les passionnés de spéologie, les autres n'ont pas vu. Hein.
Et au niveau des gravures, plutôt des dessins, je crois qu'il y a notamment un dessin qui est un petit peu difficile d'accès. Vous arrivez à le montrer ou pour l'instant, ce n'est pas possible?
Non, on a une salle. En fait, c'est une salle. Il y a une salle où il y a tous les dessins qui sont dedans. Et le trou, c'est un trou comme ça. Quoi. Donc, on s'est rentré dedans. Hein.
Alors, on s'est rentré dedans, mais en se frayant un passage, on va dire.
On sait se rentrer dedans, mais il faut se faufiler. Donc, je veux dire, une vieille personne ne va pas rentrer dedans. Oui. Et on a des photos aussi de tous ces dessins. Et nous, ce qu'on compte faire, c'est peut-être faire une meurtrière pour que les gens puissent les voir quand même. On hésite entre le fait de casser, d'ouvrir un accès ou pas. Moi, j'ai peur qu'avec la lumière, l'air et même une meurtrière, hein, si un jour quelqu'un passe un bras et prend une bombe, il abîme tout. Hein. Moi, personnellement, je ne suis pas d'avis à ouvrir du tout, mais plutôt à, puisqu'on a les photos de ces dessins, moi, je suis plutôt d'avis à les imprimer sur des bâches. Et comme on a un très long couloir, moi, je suis d'avis à les exposer dans ce couloir-là. C'est comme pour les réparations, tu vois, on fait des réparations. Ben, moi, personnellement, je suis d'avis aussi à ne pas les, à pas faire les réparations parce que moi, je trouve qu'on a acheté le fort comme ça. Et pour moi, ça fait partie de...
Oui, ça, il y a toute une conception
Voilà. Et
là-dessus.
alors, effectivement, ici, quand on voit les photos qu'on a reçues, il y en a qui disent, oui, mais c'était pas comme ça en 40. Si, c'était comme ça en 40, tu vois. Donc, des fois, on croit que c'est le génie civil qui est... Pas le génie civil, le génie qui est venu faire des exercices. Et puis, finalement, il s'avère quand même que sur les photos, eh bien, on voit quand même que y avait bien tous ces dégâts-là, quoi, tu vois. Donc, de nouveau... Que faire? Est-ce qu'on fait ou on ne fait pas? Tu vois, ce sont toutes des petites, pas des discussions, mais ce sont toutes des questions qu'on se pose et qu'on réfléchit, quoi. Donc,
Quelque part, c'est quand même quelque chose d'interpellant d'avoir tout ce patrimoine sous les mains.
ces photos-là nous permettent de comprendre, parce que comme le fort est remblayé, c'est pas facile de visualiser. Oui, à force d'aller voir d'autres forts, je dis. Ah oui, quand même, il y a encore beaucoup de terre à retirer. Tu vois, mais nous, on est habitué de voir notre fort comme ça, donc on se tracasse pas trop, mais quand on voit un autre fort, on se dit, mon Dieu, il y a encore des tonnes et des milliers de tonnes à retirer. Et tu vois, en voyant ces photos-là, c'est hyper intéressant parce qu'on comprend mieux, tu vois. Ici, il y a des soldats qui sont devant le quadrilatère. Ça, c'est une photo, à mon avis, inédite aussi. Et tu vois, il y a tous les pavés, donc on ne sait pas, est-ce que c'est la cour qui a explosé, tous les pavés sont sortis, on ne sait pas, tu vois. Enfin, il y a toute l'histoire, parce qu'on a l'histoire du commandant Lantré qui raconte, donc minute par minute, jour, enfin, il raconte en mai 40 l'attaque du fort. Mais alors, il y a les Allemands qui racontent aussi, côté. Et donc, ce qui serait passionnant, ça serait que quelqu'un aussi prenne le commandant Lantré, prenne la 211e division et regarde les discordances pour arriver. Parce que bon.
Chacun tire de son côté, hein.
Bon. Et puis aussi, il y a un accident là, ta vision, la mienne, ne sera pas du tout la même. Hein. On va voir le même accident au même instant tous les deux, on ne regarde pas la même chose. Donc voilà, c'est intéressant aussi, quoi. Et alors, il y a eu une fraternelle après. Donc, après la guerre, le commandant Lantré fait son livre et après, ils instaurent une fraternelle. Et ça, ce sont toutes des réunions qu'il y a eu dans... Donc, on est en 45, 46, peut-être 50, avant 58, à mon avis. Et là, ils créent une fraternelle où il y a un drapeau, la fraternelle du fort. Et donc là, ce sont des rassemblements, quoi.
Une dernière petite chose, qu'est-ce qui va se passer le 19 mars?
Hein, le 19 mars, donc, on a une reconstitution à 14h. On a... Après la reconstitution, une visite du fort. Enfin, on a trois départs, en fait. Comme on n'a que deux entrées, pour que ce soit fluide, il y a 25 personnes qui partent de chaque côté. Donc, il y a 50 personnes qui partent toutes les demi-heures. Et on a trois ou quatre départs. Et alors, à 18h, on a un spectacle son et lumière sous la façade du fort, avec toutes des musiques d'époque et des musiques comme la trompette d'Aïda. Enfin, des musiques prenantes qui ont... soit attrait à la guerre ou soit qui sont symboliques, quoi. Donc voilà. Et alors, par contre, ce qui est intéressant au niveau historique, c'est le 20, le lendemain, le 20 mars, on fait pour la première fois depuis très longtemps, mais je ne connais pas la date depuis combien de temps, il n'y a plus de cérémonie. Et là, on va rendre hommage aux soldats. Donc on fait une cérémonie au monument du fort qui se trouve rue Ry de Flandre, à quelques minutes du fort. Et là, on va rendre hommage. Donc, on a des autorités qui viennent, assez importantes. Et alors, j'ai aussi retrouvé plusieurs membres de la famille des soldats qui ont combattu, qui seront présents aussi. Et donc, on va leur rendre un hommage, faire un monument, une cérémonie au monument. Et alors, j'ai fait refaire l'écusson de la fraternelle. Et alors, mon intention est de l'offrir aux familles, quoi, de leur faire un petit hommage, quoi. Donc, ça sera la surprise, parce que normalement, voilà, ça c'est l'écusson. Et je l'ai fait refaire. Et je vais l'offrir aux familles. Il me semble que ce serait sympathique.